Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'être avec nous, bienvenue sur Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du sud toulousain. Et nous allons parler sud toulousain justement, nous allons parler sud toulousain avec certains des représentants du pays sud toulousain, avec le président monsieur Gérard Roujas. Monsieur Roujas, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Michel Zdane, monsieur Zdane, bonjour.
Bonjour.
Et monsieur Gérard Cablanquet, monsieur Cablanquet, bonjour.
Bonjour.
Monsieur le Président Roujas, dites-moi, le pays du Sud Toulousain, c'est quoi? Ça représente quoi? Ça correspond à quoi? Je sais qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, mais certaines personnes se posent encore la question, quelles sont les fonctions du pays Sud Toulousain?
Je vous remercie de dire qu'on l'a dit plusieurs fois, et c'est pour ça que, bien sûr, nous venons périodiquement à Radio Galaxy, qui couvre le pays du Sud Toulousain, qui est notre radio, du moins celle qui est la plus proche et que l'on préfère, bien entendu, que l'on écoute, et reste persuadé. Comme j'ai l'habitude à le rappeler, nous ne sommes pas une collectivité locale, on ne perçoit pas l'impôt, on vit grâce au travail fait par les agents, évidemment. Exemple, l'ADS, c'est-à-dire l'instruction des permis de construire, et bien sûr, c'est rémunéré. Et l'ensemble des missions qui sont les nôtres sont soit payer quelques fois maintenant et de plus en plus le département, j'espère en l'avenir, et par l'État aussi, qui donne des subventions en fonction des missions qu'il nous confie sur des contrats, bien sûr, renouvelables. D'autres fois par la région, évidemment, grâce au programme LEADER, et qui nous aide sur des subventions qui servent les collectivités locales et même les citoyens, d'ailleurs. Bon, voilà, nous ne prélevons pas d'impôts. Alors, quelles sont les missions essentielles? C'est la culture, l'énergie climat, la santé, l'urbanisme. En gros, j'ai couvert à peu près l'ensemble des missions qui nous concernent.
Le pays sud toulousain, donc, ne prélève pas l'impôt. Le pays sud toulousain reçoit ses financements par les différentes collectivités qui le composent et par les financements donc de la région et du département.
Oui. Différentes collectivités, oui, tout à l'heure j'ai dit les communautés de communes, bien entendu les trois communautés de communes, par rapport à la mutualisation qu'ils ont décidé de faire avec nous, nous versent des subventions parce qu'ils ont pensé qu'il valait mieux le mettre ensemble sur ce pays, ça coûtait moins cher d'ailleurs, et plutôt que de le faire individuellement, communauté de communes par communauté de communes. Donc ça fait des économies aux contribuables, évidemment.
C'est des économies d'échelle par mutualisation.
Importante. Autrement, peut-être qu'ils n'auraient pas fait. Ça n'avait pas été des économies importantes.
Mm-hmm. Et donc, les composantes du pays sud-toulousain, ce sont des élus et des techniciens. Vous avez des élus qui participent à la prise de décision et des techniciens, des gens qui appliquent ces décisions sur le territoire.
Bon, on pourrait dire qu'on fonctionne comme un bureau d'études. C'est-à-dire qu'il y a des techniciens qui, en fonction des compétences, on a besoin de techniciens qui peuvent remplir ces compétences, bien sûr, au profit des citoyens qui couvrent le PETR. Le pays du Sud-Toulousain, son origine, c'est quand même le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Ça a commencé par le SCOT, qui est la base et le socle du pays du Sud-Toulousain, qui est l'outil important, le schéma de cohérence territoriale, qui est, bien sûr, que vous connaissez par Gérard Cablanquet, qui est le vice-président chargé du SCOT, que je remercie mille fois parce que le travail que ça représente, travail technique, travail extrêmement important.
Le pays sud toulousain, donc, vous avez répété quelles étaient ses missions, et parmi ces deux missions, parmi des missions, vous avez parlé de deux choses en fait, c'est le programme LEADER. Le programme LEADER qui est porté par M. Michel Zdane, qui est sous la responsabilité de M. Michel Zdane au niveau du pays sud-toulousain, avec des équipes autour de lui. C'est quoi le programme LEADER, M. Zdane?
Le programme LEADER, c'est des fonds européens, bon, il faut le souligner, qui sont issus de la PAC et qui ont pour vocation de soutenir toutes les collectivités rurales. Le monde rural par essence, voilà. En gros, c'est ça.
Ces fonds européens sont destinés à quoi?
À soutenir des programmes, alors des programmes qui peuvent être des projets de collectivité, comme des projets d'associations et du monde privé. C'est pour ça que le collectif qui est autour du GAL, le groupe d'action locale, ce collectif est à deux collèges, un collège public et un collège privé, qui justement instruit, accompagne les porteurs de projets, qui ont les recadres dans les axes qui sont initialement ciblés. Dans le cadre de ces projets.
Ces financements, c'est tous les ans? C'est sur une...
Alors, ce sont des périodes, des périodes de 5 ans. La première période, bon, elle était de 6 ans, 2015-2021. Il y a eu une rallonge 2022. Et puis aujourd'hui, c'est 2022-2027. Ces enveloppes, en fait, sont plus ou moins définies à la base sur des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt présentés par les PETR, dont nous avons présenté le nouveau programme qui est aujourd'hui, dont on nous a dit avoir été retenu, mais dont nous attendons la signature de la convention dans les jours, je pense, qui viennent. Donc, les programmes, on les établit, et après, bon, bien sûr, on est dans un monde économique qui se restreint, se réduit, se resserre, et ce qui fait que l'enveloppe attendue, elle est restreinte par rapport à la précédente. Voilà ce que je peux dire.
Oui, quand vous dites vous attendez la signature, c'est-à-dire que vous attendez que ce soit confirmé par les instances européennes, que vous soyez les gestionnaires de ce fonds européen, c'est ça?
Alors, ce n'est pas les instances européennes, puisque les instances européennes, en fait, envoient des enveloppes vers les régions qui, elles-mêmes, via tout un système, une mécanique, je dirais, de contrôle et administrative et de gestion, déterminent un petit peu, redivisent ces enveloppes en fonction des territoires, dans une forme d'équité, de règles qui leur sont propres et sur lesquelles nous n'avons pas trop accès. On base nos programmes sur un contrat de territoire qu'on a intrinsèque au pays du Sud toulousain. Donc, pour prendre pour exemple, nous avions évalué nos besoins autour de 2,6 millions, 2,7 millions, et puis on sait que l'enveloppe sera de 1,7 millions, oui, beaucoup moins. Mais on peut toujours espérer, comme le précédent programme, avoir peut-être une rallonge d'ici quelques temps. On est toujours dans l'espoir.
Et donc maintenant, ce sont des appels à projets qui sont lancés pour pouvoir essayer de sélectionner les bénéficiaires de ces enveloppes pour faire vivre ce territoire rural.
Alors c'est ça, il y a des appels à projets, mais il y a déjà un appel un petit peu à candidature auprès des gens qui forment les collectifs de travail, comité technique, comité de programmation, de manière à ce que les deux collèges publics et privés soient des vrais partenaires et des vrais décideurs, des gens qui puissent vraiment instruire en connaissance de cause. Ce matin, on était avec la Chambre d'agriculture, on fait un appel à candidature, c'est-à-dire on leur dit, envoyez-nous des gens qui puissent nous aider, parce que nous, en tant qu'élus, on reste des élus, avec tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire on doit tout savoir faire, mais on n'est pas forcément des techniciens sur le fond, et on a besoin d'être éclairé, de savoir quel est l'impact d'un sujet, d'un projet, voilà, pouvoir l'analyser sur le fond. Je tiens à souligner quand même aussi cette part du leader qui est un gros, gros, gros soutien au niveau du PETR parce qu'en fait, ça soutient aussi toutes les missions qui sont internes au pays, que ce soit les projets du plan climat, que ce soit la culture, tous ces projets qui viennent soutenir l'action publique et au travers, en fait, toutes les collectivités. Et c'est un des meilleurs moyens de dire, mais voilà, au moins toutes les collectivités représentés dans le pays, ont un soutien de l'Europe.
C'est ça, c'est ce que je répète ce que disait le président tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une mutualisation des ressources et des moyens pour que l'ensemble des trois communautés de communes qui constituent le pays aient la même capacité de réagir face aux problèmes climatiques, face aux problèmes d'emploi, face aux problèmes de SCOT, etc., etc.
Tout à fait, tout à fait.
Monsieur Zdan, si je veux candidater, je suis une collectivité, une association ou un prestataire, je veux candidater à ce programme leader, je fais comment?
Eh bien, on se rapproche déjà de l'animatrice leader Christelle Guédon qui a au Pays du Sud toulousain, de ses services. On présente le projet et elle va vous accompagner justement sur le fond en vous expliquant comment on monte ce projet, qui peut concourir au cofinancement. Elle va vérifier déjà qu'il rentre dans les axes prédéfinis pour pouvoir être financé par le programme, parce que tout et n'importe quoi ne va pas y rentrer. On est dans des programmes entre guillemets novateurs, des programmes structurants pour le territoire, des programmes qui soient vraiment quelque chose, disons, qui intéresse un maximum de gens. Voilà, il faut que ça soit le territoire qui soit impacté. C'est pas juste une vocation commerciale privée qui va pouvoir accéder. Vous candidatez, ça veut dire que vous rencontrez l'animatrice projet. Et c'est elle qui va vous guider tout au long de votre parcours pour savoir structurer votre projet, voir l'impact qu'il aura sur le territoire et qui, quand, comment, en gros, on va pouvoir développer ce projet. il faut s'imaginer en fait que l'expérience, ça a été le précédent programme avec des thématiques telles que la culture, où d'un côté nous avions mettons Marthe-Tolosane qui est une collectivité qui a posé une structure immobilière de spectacle avec un théâtre, etc. Et de l'autre côté, il peut y avoir aussi tout l'accompagnement sur la mise en place, la mise en scène, le déroulement des programmes. Mais de l'autre côté, on a aussi des privés, style le Théâtre du Rond-Point, qui a, sur Sainte-Gabelle, racheté le tracteur et en a fait une résidence d'artiste pour de la formation, pour de la préparation. Et, donc on voit bien qu'un seul volet va pouvoir intéresser tous les publics, depuis le monde plus privé et associatif jusqu'au monde plus public et couvrir le territoire. Voilà.
Ça, c'est pour donc l'aspect culturel sur le territoire essentiellement. Et donc, fédérer encore une fois les territoires.
Mailler le territoire sur des axes bien précis. Il y a aussi aujourd'hui le contrat local de santé, qui est à charge du PETR mutualisé par les trois communautés de communes. Et le programme leader soutient la mise en place des maisons de santé à travers justement le contrat local de santé. Donc, derrière, il y a bien sûr l'ARS, bien sûr, il y a toutes les collectivités. Donc c'est ce mix en fait, parce que maison de santé veut dire que derrière ce sont des professionnels de santé, des soignants, des médecins, des gens tout à fait qui n'ont rien à voir avec les collectivités, mais qui vont exercer, vont pouvoir servir le public du territoire.
Merci, ça fait la jonction avec Monsieur Cablanquet sur ce territoire et sur ce maillage du territoire, sur l'organisation du territoire en fait, parce que c'est même l'objectif du SCOT. On en parle déjà depuis plus d'un an maintenant. Et le SCOT, si on devait le rappeler rapidement, c'est quoi ?
Eh bien, le SCOT, plus précisément le schéma de cohérence territoriale, il ne faut pas l'oublier, c'est un cadre de référence pour les diverses politiques publiques en matière d'urbanisme, d'habitat, d'environnement, mais aussi développement économique et commercial, l'emploi, les services, les équipements ou la mobilité. Et comme on s'est dit tout à l'heure, en ce sens, c'est bien un projet de territoire pour les 99 communes du pays sur Toulousain et pour les 20 ans à venir.
Disons. C'est-à-dire, c'est comment on organise le pays, quoi.
C'est ça. En respectant certains principes d'équilibre entre le renouvellement urbain. Renouvellement urbain, c'est comment on reconstruit la ville sur la ville, comment on construit sans prendre d'autres terres. Également, le développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural et la préservation des espaces naturels et des paysages. Avec un autre principe, c'est le principe de diversité dans les fonctions urbaines et la mixité sociale, et également le principe de respect de l'environnement. Voilà les missions qui sont attribuées au SCOT.
Alors, ce SCOT, il est décidé par qui ? Bon, ça vient du haut déjà, parce qu'il y a quand même des obligations réglementaires à respecter qui viennent de l'État, qui viennent de la région, qui viennent du département, en particulier pour les autorisations de permis de construire, les implantations d'usines ou de zones agricoles. Mais vous, en tant qu'élus locaux, dans ce SCOT, vous avez quelle mission et quel est le rôle du citoyen là-dedans ?
Le SCOT, c'est évidemment, il est issu de la loi et il doit décliner à son échelle les grands schémas nationaux ou régionaux qui s'imposent à lui. Il fixe les objectifs, il définit les grandes orientations d'aménagement, comme je disais tout à l'heure, et tout ça doit être décliné alors dans les documents locaux, le plan local d'urbanisme, le fameux PLU, ou les cartes communales.
Très bien, ça veut donc dire qu'on essaie d'homogénéiser les différents plans locaux au niveau du pays cette fois-ci.
C'est dans son étude et c'est le schéma de cohérence, donc on cherche à avoir une cohérence du territoire. Le premier SCOT, il avait été élaboré en 2012 et la loi dit qu'il doit être régulièrement révisé parce qu'en 2012, donc, il y avait les priorités qui avaient été émises par les élus. C'était organiser un développement équilibré à l'horizon 2030, préserver et valoriser le territoire pour les générations futures, conforter l'autonomie économique du territoire, assurer une urbanisation durable pour tous et promouvoir une mobilité pour tous et une accessibilité à tous. Donc, dans l'évaluation, on s'est rendu compte que les objectifs en termes d'organisation territoriale, diminution consommation d'espace, protection de la trame verte et bleue, que j'ai oublié de dire, trame verte, c'est tout ce qui est les bois, les haies et tout ça. Et la trame bleue, c'est tout ce qui est lié à l'eau. Donc ça, ça a été atteint. Par contre, les fonctions attribuées aux différentes communes du territoire, ainsi que le ratio emploi-habitant, faire en sorte que les habitants travaillent sur le pays sud-toulousain et pas ailleurs. Donc, ces deux aspects, ils n'avaient pas été atteints. Donc, il fallait retravailler là-dessus. Et donc, je le rappelle, il y a aussi les évolutions réglementaires, parce que la production de lois en matière d'urbanisme, elle est constante et assidue, si j'ose dire.
Le citoyen, lui, pour s'informer sur ce qui va faire sa vie de demain, ce qui va faire l'organisation de ses déplacements, l'organisation de son habitation, des permis de construire, etc., il peut être informé comment de cette évolution du SCOT, comment il peut y participer ou pas?
Ah, tout à fait. Et justement, notre volonté, c'est d'associer le maximum de citoyens, élus ou pas d'ailleurs, à l'élaboration de ce document, un document très technique, mais ô combien important pour le territoire. Et je veux dire que nous sommes également grandement aidés par une agence du conseil départemental, Haute-Garonne Ingénierie, qui nous apporte toute son expertise dans tous les documents nécessaires. Nous avons notre technicienne Colline Etienne. Et j'en profite pour dire que dans toutes les missions du pays sur Toulouse, il y a vraiment un binôme entre le vice-président en charge de la fonction et le technicien. Alors, comme l'a dit mon collègue Michel Zdan, un élu n'est qu'un élu. Certes, il sait tout, mais il survole tout, quoi. Et c'est vrai que la présence du technicien et le binôme est important. Alors, par rapport à la concertation, il y a eu au printemps et à l'automne 2022 cinq ateliers territoriaux répartis au sein des trois communautés de communes, alors qui étaient ouverts à absolument tout le monde. Tout ce qui voulait pouvait y participer. Donc là, on a commencé à avoir les avis et les propositions de tout le monde. Il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas de censure préalable. On a tout pris. Ensuite, en décembre dernier, il y a eu les assises du territoire. Donc là, il y avait une centaine d'élus. Et là, le thème était les ressources. Donc la matinée, justement, à ces assises, c'était intervention de spécialistes sur la matière de la gestion de l'eau, de la forêt, de l'alimentation, développement urbain. Et l'après-midi, ça a permis aux élus de valider certaines hypothèses dans le domaine, évidemment, du SCOT. Et parallèlement, il y a la commission SCOT, que j'anime en tant qu'élu, qui se réunit tous les mois. Il y a des élus, mais il y a aussi des citoyens issus du conseil de développement. Conseil de développement, faut-il le rappeler, c'est une assemblée de citoyens qu'on consulte. Et il y a dans la commission SCOT, ben, au moins deux personnes issues du conseil de développement, ce qui veut dire que on a l'éclairage des non-élus sur ben, des problèmes de monsieur tout le monde, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Jusqu'à l'été, les travaux vont conduire à l'élaboration du plan d'action spécifique, qu'on appelle PASS, qui définit les grandes lignes de ce que va être le futur SCOT. Il devra être validé, ce plan d'action spécifique, par les élus avant l'automne. Et après, on viendra alors à la partie réglementaire qui sera faite, là aussi avec, bien sûr, l'apport des techniciens du département, mais aussi du bureau d'études, parce que on est dans des domaines extrêmement techniques et, je dirais, sensibles. Et quand je parlais tout à l'heure de la production législative, il y a eu deux lois. Il y a la fameuse loi, maintenant tout le monde connaît, je pense, Climat et résilience à l'été 2021, avec une déclinaison à long terme qui est le zéro artificialisation nette. Et il y a eu en février une autre loi, l'accélération de la production d'énergie renouvelable, qui va impliquer fortement les communes, qui devront en fait faire, pour schématiser, des lieux d'implantation privilégiés de ces installations sur leur commune. Tout ça donc sera produit en fin d'année et le conseil syndical du pays sud toulousain arrêtera la révision, c'est-à-dire bon stop, maintenant on est arrivé au bout, et toute l'année 2024 il y aura l'enquête publique. Entre-temps, de nouveau de la participation citoyenne, la prochaine c'est le mardi 18 avril, le thème c'est quel aménagement du territoire dans un contexte de sobriété foncière. comme c'est une conférence, il y aura un professeur en aménagement du territoire, le président d'un SCOT voisin, le directeur d'établissement public foncier d'Occitanie, qui est quand même le financeur institutionnel pour tout ce qui est foncier, et ensuite un architecte du conseil d'architecture, urbanisme et environnement du conseil départemental.
Cette réunion du 18 avril prochain, elle est publique, elle est privée, elle est réservée aux élus ou le citoyen peut venir ?
Elle est ouverte à tout le monde, oui. Ceux qui souhaitent y participer, effectivement, ils doivent s'adresser au conseil développement qui va en fait organiser la participation des citoyens. Et ensuite, il y a 4 autres journées avec chaque fois un thème et toujours pareil, conférence, débat, des spécialistes de façon à éclairer aussi parce que c'est pas que l'urbanisme, c'est vraiment un projet de territoire. Et après, donc, avec des quiz, avec des méthodes pour recueillir un avis majoritaire. Et après, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura la conclusion du plan d'action spécifique.
Voilà. Tu vas lancer en fait les réflexions et les validations.
Les validations. J'ai fait une erreur, j'ai parlé de plan d'action spécifique. Les auditeurs auront rectifié, c'est bien sûr le plan d'action stratégique et pas spécifique.
Président, oui. Tout ça, ça nécessite de l'argent pour fonctionner. Je sais que vous avez récemment voté le budget du Pays Sud Toulousain. C'est réparti comment? Comment vous gérez tout ça?
Non. Alors, je vais essayer et très rapidement de dire, avec un peu de fierté, je dis que c'est le premier PETR d'Occitanie. C'est-à-dire celui qui a su mutualiser le plus par rapport à tous les PETR qui existent en Occitanie. Nous avons aussi, sur ce territoire, la chance d'avoir le nouveau président du conseil départemental qui nous a assuré d'avoir une réflexion plus large par rapport aux mutualisations et aux propositions que pourrait faire le PETR et qui peuvent intéresser le département, bien entendu. Et j'ajoute que, dans le temps, la vice-présidente du PETR, elle s'appelait Carole Delga. Nous avons la chance d'avoir ces deux personnes sur le territoire et il faut s'en féliciter. Ce matin, nous parlions avec la Chambre d'agriculture pour l'associer à la réflexion du Conseil syndical du PETR. Donc, tous ceux qui sont sur le territoire, qu'ils soient artisans, qu'ils soient citoyens, qui veulent s'associer à travers tout ce que nous mettons en place dans une réflexion collective, sont non seulement les bienvenus, mais permettront d'avoir un PETR qui grandira encore dans la réflexion et qui sera pris un exemple. C'est tout ce que souhaite le bureau du PETR que je représente aujourd'hui avec mes deux vice-présidents. Le budget, parce qu'on n'en parle pas assez, si on parle des budgets des communautés de communes, c'est 80 millions d'euros. Le budget du pays du Sud-Toulousain, c'est 2,6 millions d'euros, et je dis bien dans ces 2,6 millions, il y a environ 800 000 euros qui sont le fait de l'instruction des permis de construire qui sont payés par les communes. Donc il reste environ 1,7 million d'euros. Je considère qu'il y a 350 000 euros qui sont payés par les communautés de communes. Nous existons pour faire des propositions en les mutualisant pour faire en sorte, chaque fois que c'est possible, de faire payer le moins possible aux contribuables sur ce territoire, aidés par les communautés de communes qui le souhaitent, évidemment.
Vous savez combien de techniciens salariés qui interviennent sur les projets?
Il y a 30 personnes environ qui sont réparties sur l'ensemble des services du pays du
Sud-Toulousain. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a 30 personnes qui sont des spécialistes d'un sujet qui sont mises au service des collectivités, des 3 communautés de communes pour répondre à leurs besoins techniques.
Voilà, c'est ça. Nous avons essayé d'associer aussi les citoyens et j'espère que ce sera une réussite. Maintenant, le CODEV est en place et ça permettra de faire participer les citoyens à la réflexion du PETR.
Juste, le CODEV, donc, pour rappeler, c'est le Conseil de développement qui regroupe des citoyens non élus. C'est une espèce de groupe de réflexion qui lance des propositions aux élus et pour avoir un regard un peu plus en recul par rapport à ce qui est proposé.
Oui.
Bah, écoutez, on a fait, je pense, un bon tour sur le Pays Sud Toulousain, sur ses missions actuelles, le programme leader avec les appels à candidature pour tous ceux qui veulent participer et les invitations aux différentes réunions du SCOT qui vont se dérouler donc la prochaine le 18 avril, ensuite le 26 mai, le 2 juin et le 9 juin. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site du Pays Sud Toulousain, j'imagine, paysudtoulousain.fr pour retrouver tout ça, y participer et donc le fameux CODEV qui est un appel aux citoyens qui veulent également participer à la vie de ce territoire. Allez voir sur le site du Pays Sud Toulousain, paysudtoulousain.fr, à la page CODEV que vous chercherez, et vous trouverez toutes les informations pour les trouver. Messieurs, merci beaucoup d'être venus à Radio Galaxie.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et puis, bonne journée.
Merci.
Pareillement.